Quand on raconte une anecdote de ce qui nous est arrivé, on fait du montage, on enlève des bouts, c'est ben trop long.
Les films biographiques, ou c'est appelé les biopics, on la cote autant ici qu'ailleurs.
La seule chose que mon père a dit, et je pense que c'était une blague, il a dit « j'avais pas de moustache ». Mais c'est tout, j'avais pas de moustache. Et ma mère de dire « j'ai jamais pleuré comme ça ».
Parmi les films qui ont engendré le plus d'argent au box-office québécois, on retrouve notamment les longs métrages à propos de la vie de Maurice Richard, du commandant Piché et de l'homme fort Louis Cyr. Et tout dernièrement, des films comme Rue, qui racontent la vie de Kim Thuy.
Mon nom est Nguyen Anh Tĩnh et celui de ma fille, Nguyen Anh Tĩnh.
Moi, c'est Lisette. Juste Lisette.
Et prochainement, Villeneuve, qui porte sur la vie du courseur automobile Gilles Villeneuve, débutera son tournage. Qu'est-ce qui explique que le public soit aussi friand d'histoires vraies? On s'y intéresse à Sortez le popcorn. À mes côtés, je reçois Kim Thuy, qui est l'autrice du livre Rue, mais oui, qui est aussi productrice sur le film, parce que le film est sorti en novembre dernier.
Je ne sais pas toujours, je sais toujours pas ce que ça veut dire, ce titre-là, productrice associée. Faut ajouter
exactement
ça, parce que je pense que c'était vraiment un rôle qu'on m'a donné afin que j'aille sur le plateau, que j'ai le droit d'aller sur le plateau. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait là?
Je pense que c'est un droit de regard, on pourrait dire ça, un droit de regard sur la production.
Je voulais pas ce droit de regard, là.
Non?
Aucunement.
OK.
Parce que production, je pense que vous regardez des chiffres et tout ça. J'ai aucune idée combien coûte quoi. Alors vraiment, j'étais seulement là en tant que cheerleader, là, comme on dit. Là. Et non, je ne voulais pas avoir un droit de regard. J'ai refusé ça dès le début, dès la première discussion avec le scénariste Jacques Davids et par la suite, encore plus avec Charles-Olivier quand le film commençait à prendre forme et qu'on réfléchissait là, à la réalisation comme telle. Et chacune des conversations qu'on a eues avec Charles-Olivier, c'est je finissais toujours en disant « N'oublie pas de te détacher de moi. N'oublie pas d'être libre, de profiter de cette liberté qu'on a en ce moment pour le faire. » Puis pourquoi cette liberté-là était assez extrême, c'est qu'il y a eu la COVID. Donc, on pouvait rêver un autre film qu'un film qu'on avait déjà en place. Et là, j'ai dit, c'est une chance. C'est une chance pour nous de pousser le film encore plus loin. Alors, n'oublie pas là, d'aller jusqu'au bout de cette liberté-là. Les contraintes, on va les rencontrer de toute façon, à un moment ou à un autre. Mais d'abord et avant tout, là, rêve. Et puis fais le film libre.
Daniel Roby, réalisateur, wow. Qui a réalisé Louis Cyr, entre autres, Suspect numéro 1, qui portait sur une histoire avec des gens qui ont réellement oui, existé. Et prochainement, Villeneuve, Kim Thuy, c'est un sujet en or. Quand une protagoniste nous dit « Prends les libertés que tu veux, fais ce que tu veux » avec la vie d'une personne.
Oui, totalement. En fait, elle livre le secret pour les autres parce que je pense que ça, c'est la meilleure attitude pour y arriver avec un produit fini dans le long métrage qui va satisfaire tout le monde puis qui va être de meilleure qualité, qui va avoir une meilleure vision, qui va être plus fort, qui a plus de chances de toucher les gens et d'aller toucher des sujets délicats qu'il faut aller chercher quand on fait un biopic. Donc, c'est sûr que si la personne sur qui on fait le film est toujours là, ce qui est délicat, c'est qu'on ne veut pas blesser la personne. On veut que la personne soit heureuse du produit fini parce qu'on veut toucher le public, mais on veut aussi que la personne sur qui on fait le film se sente fière du film. Mais ça, des fois, ça peut être contradictoire ou ça peut être délicat. Et quand la personne nous dit carte blanche, dans le sens où je te donne mon opinion, mais après, tu fais ce que tu veux. C'est ce qui m'est arrivé sur Suspect numéro 1 avec Alain Olivier. Lui, jamais il est rentré pour me dire non. C'est-à-dire qu'il m'a levé des drapeaux pour me dire, attention, lui est allé en prison en Thaïlande et pour me raconter le quotidien, il me dire, ça, on ne faisait pas ça. À la fin de la journée, c'était mon choix de faire
exactement
ce qu'on voulait. Mais ça, l'attitude que tu as eue, Kim, pour ça, et pour un cinéaste, pour Charles Olivier, c'est un cadeau en or, ça, c'est sûr. Mais pour le public aussi, parce que le film est meilleur.
Aussi parce que le film devient un film et non pas quelqu'un qui essaye de raconter une histoire à travers un cinéaste. Donc, il n'y a plus personne qui est là à 100%. Alors que quand on donne la liberté, Charles-Olivier, il peut vraiment être le réalisateur du film.
Il y a quelqu'un qui me dit récemment, quand je vais voir un film qui porte sur la vie d'une personne et qu'on se rend compte que l'histoire ne s'est pas nécessairement déroulée comme ça, c'est qu'on a arrangé un peu la vue pour qu'elle soit romancée mm-hmm. au cinéma, j'ai l'impression de me faire flouer. Mm-hmm. C'est ce que la personne me dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Est-ce qu'on est obligé de voir la vérité sur grand écran si on la compare avec la vie de la personne?
Mais déjà, quand on se raconte, on fait déjà de la fiction, là, parce que dans le quotidien, il faut se brosser les dents, il faut prendre sa douche, je sais pas, il faut aller chez le dentiste, mais quand est-ce qu'on montre ça? Donc, quand on lit une biographie ou quand on voit un film, il faut accepter d'avance qu'il y a plein d'éléments qu'on ne voit pas. Puis oui, c'est la vision de la personne sur elle-même. Hein. Des fois, même quand on écrit sur nous-mêmes, on ne voit pas notre dos. On imagine notre dos, alors que le réalisateur, lui, il voit notre dos. Là, il va présenter le dos. Et déjà, comment il voit le dos? J'ai aucune idée à quel moment il voit ce dos-là. Donc, ce que j'ai écrit, oui, une partie de moi tellement détaillée, mais en même temps qui ne se rattache pas au reste. Et je vous confirme, je me réveille, en tout cas, pas tout à fait comme dans le film.
Daniel, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
Mais moi, je pense que j'adore ton exemple de dire on se brosse les dents, on a une vie, puis on ne montre pas ça ni dans un film, ni dans un livre, ni dans
parce que c'est pas intéressant.
Parce qu'il faut faire du montage dans la vie quand on raconte. Quand on raconte une anecdote de ce qui nous est arrivé, on fait du montage, on enlève des bouts. C'est bien trop long. Je veux dire, ça a duré 4 jours, je te le raconte en 15 minutes. Je prends des raccourcis. Bon, ben.
Ou le contraire. Des fois, on l'a vécu juste pendant une minute, mais c'était tellement important, cette minute-là, que ça dure 3 pages. Ça dure 3 minutes.
Tout à fait. Et d'ailleurs, sur un film, tu as totalement raison parce que c'est un des gros éléments du cinéma, c'est de raccourcir certains trucs puis de rallonger certains trucs pour qu'on vive l'expérience subjective du personnage ou de la meilleure façon. Mais par rapport aux critiques, je comprends la critique superficielle, disons, de dire « je me sens... » C'est comme si on m'avait menti, admettons. Oui. Bon, ça. Moi, j'aurais 2 choses à dire là-dessus. J'aurais tendance à dire, première des choses, je pense que dans un documentaire, c'est extrêmement important que ce soit factuel au maximum parce que c'est comme un reportage journalistique. C'est-à-dire que là, à un moment donné, moi, si je regarde un documentaire puis on me présente des images ou on me dit des choses qui ne sont pas factuellement véridiques à 100%, moi, pour moi, ça discrédite le documentaire au complet. Okay? Fait que c'est important parce que là, tu as le temps et tu n'as pas de build-up émotif à faire parfois dans un documentaire. Parfois, c'est didactique. On veut apprendre quelque chose et on veut comprendre quelque chose dans son détail. Dans un film de fiction, je pense que il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a le sujet qu'on traite, parce que dans la vie d'une personne, il y a plusieurs sujets qu'on peut traiter. Des fois, je vais jumeler 2 personnages pour en faire un. Je vais prendre des événements. La personne est allée 3 fois. Suspect numéro 1, c'est un bon exemple. Oui. Est allée 2 fois en Thaïlande pour la police, blablabla. À un moment donné, on peut pas... Le film aussi a une durée limitée. Si on met tous ces détails-là, je raconte plus l'essentiel de l'histoire qu'on veut raconter et ça crée une confusion. Et à ce moment-là, c'est au détriment de l'expérience du spectateur. Donc, lui, il peut se dire, j'ai vécu de la façon la plus vraie possible l'émotion ou l'expérience que cette personne-là a vécue. C'est ça l'objectif pour moi. Donc, désolé si je vous mens un petit peu, c'est pour votre bien.
Puis c'est pas mentir, c'est justement le travail. Ça s'appelle quand même le 7e art, non? Ou que la littérature reste l'écriture.
Totalement.
Et comme dans le film, on parle d'une famille, la famille Girard. Mais on a été soutenus par plein de familles. Puis j'ai eu plein de petites filles et petits garçons.
C'est un amalgame. Dans rue, ce qu'on voit, c'est un amalgame de familles.
Mais oui. Et donc, on a changé le nom.
Il n'y en a qu'une.
Mais oui, on a changé le nom parce qu'il y a la famille Lamotte, la famille Godbout, la famille... plein de gens qui nous ont entourés.
Bon, ça y est, j'y crois plus au film. Ça y est, trop tard. Ça vient de péter ma balloune.
Mais
vous avez bien fait.
En termes d'amis, j'avais les deux enfants de la famille Godbout. J'avais Joanne et j'avais Eric, je ne sais pas, Serge. Bon, en tout cas, il y avait plein de monde. Mais on ne peut pas tout mettre dans un film. Parce que dans la vraie vie, ça s'est passé sur 1 an et non pas sur 3 minutes. Donc, on n'a pas le choix de les mettre ensemble. Et je reviens sur le documentaire. Tu as parlé du documentaire, le vrai. Et même le documentaire, c'est un point de vue. Oui, les faits doivent être vérifiés et véridiques, mais c'est aussi une question de point de vue. Qu'est-ce qu'on essaie de présenter? Et je vous donne un exemple et vous voyez tout de suite la guerre du Vietnam. En dehors du Vietnam, dans toutes les langues, on l'appelle la guerre du Vietnam. Mais si vous êtes vietnamien, et que vous parlez en vietnamien, on l'appelle la guerre américaine.
Bien sûr.
On ne peut pas appeler ça la guerre du Vietnam.
C'est une question de perspective.
Oui. Et donc, même dans un documentaire, qui est en train de faire le documentaire? Si c'est un documentaire vietnamien, ben, je suis désolée, ben, c'est le point de vue des Vietnamiens. Et là, les faits qu'on présente sont complètement différents.
Bien sûr.
Ben, pas différents, mais d'autres faits.
Dans un angle.
D'une autre vérité.
D'un angle différent. Ouais.
Oui, parce que la vérité est multiple.
Exactement. Je suis tellement d'accord.
Hey, écoutez, je ne peux pas avoir deux invités plus en symbiose que ça. C'est quand même fantastique.
Mais c'est bien de quand même de parler de cette idée-là, de dire que même dans un documentaire, quand les gens pensent que les faits sont les faits, non, tout est toujours édité, tout est toujours monté et tout toujours de la perspective de quelqu'un. Et donc, c'est
on
sûr
le voit
que...
aujourd'hui avec les livres d'histoire. Hein? On est en train de revisiter l'histoire, mm-hmm. justement.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que l'histoire a été racontée seulement d'un point de vue, alors qu'il y a 360 points de vue, au moins, minimum. Et donc, comment faire pour inclure le plus de points de vue possible?
Mais tu sais, c'est le réflexe d'un cinéphile qui va aller voir un film. Puis je me rapporte à l'automne dernier, quand Napoléon est sorti, pour prendre un cas qui n'est pas québécois.
Ouais.
On n'entendait que parler des erreurs de fait du film de Ridley Scott. On parlait plus des erreurs de fait que du film en tant que tel. Fait que des fois, je me demande si ça peut pas nuire à une histoire ou à un film quand les personnes vont vérifier après par curiosité puis de dire ah ben voyons, ça s'est pas passé, mais pas du tout comme ça.
Tu sais, comme toi, c'est ta vie, tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est toi qui détiens les clés de tout ça. Les gens peuvent pas aller faire une recherche pour voir combien de familles vous avez visitées, je veux dire, je penserais pas, dans le sens, par contre, tu sais, comme là, tu parles d'un fait historique, tu sais, admettons...
Mais toi, tu l'as peut-être vécu avec Louis Cyr,
ben,
non?
C'est-à-dire que moi, j'ai fait un peu le suspect numéro un, c'est un élément policier, puis Louis Cyr, c'est un biopic personnel, si on veut. Mais admettons, dans l'international, on parlerait, mettons, Spotlight, qui est un fait sur, tu sais, quand même légal avec un journal.
Une enquête journalistique.
Puis admettons, je sais pas moi, La vie en rose, Édith Piaf, tu sais. Bon, mais Édith Piaf s'est fait beaucoup critiquer ce film, ce réalisateur, pour avoir contourné des faits véridiques de la vie d'Édith Piaf. Mais ce film, de mon point de vue, à moi, est un chef-d'œuvre total. C'est tellement émouvant.
On a compris Édith Piaf.
Et on a compris Édith Piaf, ou en tout cas, ce que ce metteur en scène-là avait envie de nous faire comprendre de la sensibilité et des défis auxquels elle a fait face. Moi, ça m'a touché.
Oui, et il faut se donner le droit aussi de dire « Ah, ça, c'est mon Édith Piaf. » C'est pas l'Édith Piaf de tout le monde.
De tout le monde.
Ça, c'est mon Édith Piaf. C'est comme mon Vietnam.
Exact.
Tu sais, il y a combien de personnes qui sont pas d'accord avec mon point de vue de
comment
j'ai interprété. Ne serait-ce que juste mes parents. C'est sûr, dans le camp de réfugiés, il y avait pas eux autres, ils avaient pas les mêmes inquiétudes que moi, là.
Mm-hmm.
Donc, alors que je passais, je sais pas, 2 heures à regarder le poisson pourri, eux, c'est comment on va faire pour remplir les bons formulaires, aller dans tel pays. Ils s'inquiétaient beaucoup plus des autres choses que moi qui regardais le poisson. Donc, même au même moment, vivant la même situation...
Deux personnes dans la même pièce,
oui.
Évidemment.
Et donc, même l'histoire, quand on dit « Ah, oh, mais oui, mais ce sont des faits historiques. » Oui, mais les faits historiques sont nombreux.
Bien
Lequel
sûr.
Est-ce qu'on va prendre et qu'est-ce qu'on essaie de transmettre? Moi, j'essayais de transmettre, par exemple, avec Rue, le sentiment d'une petite fille. Je voulais pas donner la vision de mes parents. J'aurais pu.
Oui.
Choisir complètement écrire du point de vue de ma mère, par exemple, ou de mon père, mais
oui.
C'était pas le choix. Donc, je crois qu'il faut donner le droit au réalisateur ou à toute l'équipe du film de dire, nous, on vous raconte notre Édith Piaf. Nous, on raconte
voilà.
notre
mais
Napoléon.
J'ai envie de demander, c'est quoi ton Gilles Villeneuve?
Oui, alors, ben,
qu'est-ce
c'est
que c'est ton Gilles Villeneuve?
Moi, personnellement, moi, je préfère le choix que ce metteur en scène-là a fait pour Édith Piaf quand il s'est fait attaquer, parce qu'il s'est fait attaquer par les grands fans de dire son manager n'a jamais fait ça, il n'était pas là à cette époque-là, à telle date. Puis lui a vraiment dit... Je m'en fous. J'ai pris ces éléments et j'ai raconté l'essence de l'émotion que je voulais faire vivre. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est un
mais
bon
parti. Est-ce que c'est ce que tu vas faire avec Gilles Villeneuve? Parce que des fans,
alors...
là, il y en a partout sur la planète. C'est un courseur automobile mythique
oui.
Qui est mort d'une façon tragique.
Oui.
Tout le monde a une vision
oui.
de ce qu'était
oui.
Gilles Villeneuve.
Donc,
là,
moi,
t'es compris avec un genre
moi, je suis un
une icône
artiste,
comme ça.
Je suis un artiste prudent.
Oui.
Disons ça. Moi, okay. je fais les deux.
T'as peur?
Je suis un artiste prudent. C'est-à-dire que le plus possible, je vais essayer de garder les éléments factuels pour éviter la distraction. Parce que je trouve que je veux pas que les gens se mettent à aller faire « Ah oh non, mais ça, c'était pas vrai, c'était pas la bonne année. »
C'est pas la bonne course.
Et de tout à coup, ils écoutent plus le film. Ils embarquent plus dans l'histoire parce qu'ils sont juste... Bon, fait que moi, si je peux éliminer cette distraction le plus possible, je vais le faire. C'est sûr que, par contre... pas au détriment de l'expérience. Donc, moi, je le fais jumeler des personnages, inventer des segments, c'est-à-dire un événement, c'était plusieurs événements, le ramener à un événement, mais pour qu'on puisse comprendre la psychologie, les choix, les décisions de Gilles, je vais préférer le jumeler puis faire vivre une expérience intense qui est 4-5 histoires que je me suis fait raconter, la mettre en une. Parce qu'on veut... Ben, moi, je le fais, ça. Je le fais volontiers. Puis après, quand le film sortira, ben, on me posera les questions, je pourrai les défendre. Mais pendant que tu es assis dans la salle, tu sais, par contre, quand il gagne la course à telle date, je vais la mettre qui gagne à cette date-là. Mais c'est plus dans les aimants personnels qu'on a de l'espace à aller jouer, je trouve. C'était qui son ami à cette date-là? Qui était dans l'auto quand est arrivé tel accident? Quelle couleur était l'auto? Quelles étaient les conditions? Tu comprends? Je veux dire, à un moment donné, dans sa vie personnelle, parce que Gilles Villeneuve, il y a eu des accidents pas juste sur la piste de course, dans la rue aussi, dans sa campagne. Donc, sa jeunesse, ces trucs-là, c'est sûr que moi, je vais poser des questions au plus de gens possible. Puis même, comme tu disais, alors, toutes les personnes ne me racontent pas la même histoire.
Ben non.
Les versions que je reçois, j'en ai 10 versions du même événement. Donc là, moi, je vais piger là-dedans. Je vais recouper des choses. Ça va me permettre de mettre en lumière un aspect de sa personnalité,
ben oui,
qui est notre sujet. Puis je vais focusser là-dessus.
Je me pose la question, dans les films biopics, là, souvent, on pense à l'apparence physique. Est-ce que le comédien ressemble vraiment à la personnalité dans la vraie vie? Et dans le cas de Gilles Villeneuve, ben, c'était Rosalie Bonenfant et Rémi Goulet. Et l'apparence physique était parfaite. On s'est dit, ben voyons donc, ils sont pareils. Et dans le cas de Rue, c'est Chloé Jandy qui, oui, t'incarne toi, que tu avais vu en audition. Est-ce qu'il faut aller avec la ressemblance physique? Est-ce qu'il faut aller avec le jeu? Comment
je choisir?
Mais moi, je te poserais la question, toi, comment toi? Parce que là, c'est intéressant parce que c'est elle.
Oui.
Tu sais, c'est d'habitude.
Non, mais je veux dire, c'est sa vie à elle. C'est que vous avez tellement, ouais, des histoires différentes de films.
Même comment on se sent quand il faut caster un personnage qui va être soi, comme une représentation de qui on était. Toi, est-ce que tu étais là aux auditions? Est-ce que...
Je vais citer mon amoureux, OK? Il dit, à un moment donné, il dit, là, il faut que tu sois juste avec nous, OK? Pas en observation. Parce qu'il dit que je me dédoume tout le temps. Je suis à l'extérieur et à l'intérieur en même temps. Puis Charles-Olivier m'a dit la même chose. Et là, ça a fait peur un peu, là, mais... Bon, donc, en audition, pour moi, c'est le film. Ça n'a rien à voir avec moi. Donc, est-ce que cette actrice reflétait exactement le sens ou sinon l'essence du film, ce que Charles-Olivier voulait faire avec le film? Est-ce que ça colle avec le scénario? Est-ce qu'elle a le talent pour le faire? C'est tout. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'avais pas besoin...
Tu t'es pas reconnue une seconde dans le casting de cette jeune fille?
Il ne faut pas. Je crois qu'il faut lui donner la chance d'être elle, qu'elle puisse jouer... elle, son personnage. En 10 secondes, j'ai dit, c'est elle. Vous n'avez plus besoin de chercher.
Elle s'est vue à quelque part. Alors,
je
savais que c'était elle.
Je trouvais tellement capable parce qu'elle était en train d'éplucher une carotte imaginaire. Et juste la façon, son corps était vraiment le corps d'une Vietnamienne. C'est-à-dire le langage corporel vietnamien que je n'ai plus, okay? Du tout. Parce que ça fait 44 ans que je suis ici. Et là, j'ai vu la Vietnamienne. Et elle devait jouer le rôle d'une Vietnamienne. Et quand elle a dit une petite phrase de rien, en 4 mots, c'était le bon Vietnamien, de un. Deux, la façon qu'elle répondait à son père, elle ne le regardait pas. Et c'était la manière vietnamienne de répondre à son père. Alors que moi, aujourd'hui, je regarde mon père, je regarde dans les yeux. Mais, et juste ça...
À l'époque, tu ne faisais pas ça.
Ben non. Parce que dans la culture vietnamienne, on ne fait pas ça. On ne fixe pas le regard de quelqu'un qui est de notre aîné. Alors, son langage corporel, ce qu'elle dit, j'ai dit, on a la vietnamienne.
Est-ce que c'est pareil dans le cas de Villeneuve?
Bien, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est une icône internationale. J'aurais pas cherché un acteur de 6 pieds 4, look de joueur de football pour venir jouer Gilles Villeneuve. Il y a quand même des restrictions physiques de base. Mais dans ce cadre-là, c'est sûr que j'ai vu beaucoup de monde en audition. Après, ça demeure un peu une chance, puis c'est sûr que tu dois choisir la personne qui va être capable de porter un film sur ses épaules puis qui a le talent de jouer les scènes en priorité sur le look. Parce que moi, je pense vraiment qu'après, avec les costumes, la coiffure, avec le ton, puis quand on tombe dans le contexte, l'énergie prend la première place. Et là, tout à coup, c'est le talent et on se met à voir la personne, même si la personne de base, elle ressemblait pas tant. Moi, j'y crois vraiment à ça. Il y a comme une transformation.
Mais t'étais comme incroyablement chanceux avec Rosalie Bonenfant.
Oui, mais elle, ça, c'est oui, gros coup de chance.
Parce que, tu sais, t'as l'aspect physique, puis en plus, bon, j'imagine qu'elle doit avoir été choisie pour son talent, mais...
Bien, bien sûr.
Mais en fait, là, t'as le croisement des deux.
Tu croises les doigts, vraiment, quand tu vois une personne comme ça, t'es comme, holy shit, pas. J'espère que cette personne saura jouer la comédie, qu'elle va être bonne. Puis, mais on a quand même fait 3 auditions avec des callbacks pour s'assurer. Parce que tu es un peu déstabilisé au début. Parce que là, la ressemblance est tellement incroyable que c'est sûr que tout ton corps veut dire c'est elle. T'sais. C'est comme. Fait que faut que tu te battes avec toi-même un peu pour dire calmons-nous. Là. Faisons les auditions, voyons vraiment. Puis pour moi, il y en avait plusieurs actrices qui avaient le talent. Évidemment, il y en a plein d'actrices qui ont le talent pour le faire, mais qui étaient suffisamment proches. Du personnage, puis qui était là en audition. Fait qu'il y a eu une compétition quand même à la fin. Puis il fallait que Rosalie soit au niveau, parce qu'au niveau expérience, Rosalie avait peut-être pas autant d'expérience que certaines c'est autres bien actrices. Bien. Donc, puis je le sais, vous pourriez demander, elle me l'a dit, elle s'est vraiment préparée beaucoup pour les auditions. Thank God! Mais elle a mis le travail, elle a mis le temps. Je pense qu'elle savait qu'elle avait le potentiel. Je dirais pas folle. Elle les a vues, les photos de Joanne Villeneuve. Elle savait qu'elle avait une porte là, qui s'ouvrait. Après, ça n'en demeure qu'à elle de mettre l'effort pour... Il faut qu'elle ait une base de talent, on s'entend, mais hein, le travail bat le talent en général. Fait que je pense que Rosalie, elle a mis ce temps-là, puis ça l'a paru. Puis après ça, on peut festoyer, puis ça a pris le champagne.
Okay, puis on va revenir à Louis Cyr, parce ouais. qu'avec du recul,
Colin.
Antoine Bertrand, là, je me dis, il n'y avait personne d'autre au Québec qui pouvait jouer Louis Cyr.
C'est sûr que j'ai pas dit ça la première journée ouais. qu'on s'est parlé, mais entre lui et moi, il savait bien dans sa tête qu'il comme Colin. Mais aussi, il faut dire qu'Antoine, tu sais, lui, avant, il y avait eu une série qui avait été développée sur Louis Cyr, puis il avait été approché. Ça faisait déjà 8 ans que tout le monde au Québec disait « Tu vas faire Louis Cyr », tu sais. Donc, il y avait déjà un peu ça dans l'air. Mais moi, je l'ai pris un peu comme... Tu sais, j'aime ton détachement. Je trouve que, en fait, tu serais une excellente réalisatrice. Ça prend ce détachement de dire qu'il n'y a aucune obligation, on est attaché à rien, il faut ouvrir son esprit, il faut créer quelque chose. Donc, tous ces éléments-là de pression qui viennent de ce qui s'est passé avant, on s'en fout. On recommence à zéro, là, on fait un film, Antoine est rendu à tel âge, le scénario est ça, on s'assoit, il le lit, puis je veux dire, moi, on ouvre à tout le monde. Pour
Mais
moi,
as-tu fait cette ouverture-là autour du personnage de Louis Cyr, en oui. disant qu'il y a d'autres gens oui, qu'Antoine Bertrand qui peuvent l'incarner?
Antoine, je te le dis, j'ai demandé au directeur de casting de me sortir toutes les autres personnes qui pourraient jouer le rôle physiquement, qui pourraient le faire, puis qui ont de l'expérience. Quelles seraient les options?
Moi, j'étais le contraire de toi. Chloé, c'était la première que j'ai vue.
Ah oui?
Puis j'ai dit, oubliez le c'est reste. Elle. Mais dis, c'est sûr que l'équipe a vu beaucoup, beaucoup d'autres ben oui. candidates. Mais moi, j'ai dit non, vous l'avez. Et faites confiance à votre instinct. Si vous... Moi, je fais confiance à mon instinct.
Tu sais que ça arrive souvent, c'est elle. Ça arrive souvent, hein? On ouais. arrive, là, dans les premiers qui viennent, tu le vois. Puis après ça, tu en vois 50 autres. Puis quand les gens viennent en audition, sérieux, les 2-3 premières secondes, on sait tu pas sais. Mal. Ouais.
Ah oui?
Peu importe l'audition. Ouais,
ça,
ouais, ouais.
Il y a une vibe. Cette espèce de feeling-là, c'est vrai. Là.
Il y a une vibe. Oh,
mais
on
se fait pas confiance. Non, on fait totalement. Un deuxième date, troisième date, et là, on justifie. Non, mais sur papier, c'est bien. Non, tu sais. Puis, oups.
Oups. T'as raison.
Ouais.
Je voulais aborder aussi l'aspect où vous devez vivre avec des gens qui sont vivants. Dans ton cas, ben, tes parents, je suis curieuse de savoir comment tes parents ont reçu le film. Même si tu dis que c'est le point de vue d'une jeune fille, ils t'ont quand même lu. Et de transmettre en image qu'on a lu dans un roman, c'est pas la même chose. Et toi, de ton côté, il faut quand même que tu travailles avec l'aura de Joanne Villeneuve, de Mélanie Villeneuve, qui est la fille de Gilles et de Joanne, et de Jacques aussi, qui a eu sa présence en course automobile. Fait que c'est quand même un poids d'avoir appris à sortir le film puis de le présenter à ces gens-là.
La chance que j'ai, c'est que je suis née dans une famille nombreuse. Bien, pas nombreuse, mais très proche avec les tantes, les cousins, les cousines et tout ça. Et depuis le début des temps, on est toujours d'accord qu'on n'aura jamais la même opinion, le même commentaire, le même point de vue autour de la table. Jamais. S'il y a 40 personnes autour de la table, bien, il y a 45 opinions. Pas 40, là, 45.
C'est le fun de votre famille, ça devrait s'appliquer dans toutes les familles du Québec, ouais, cette fois-là.
Et donc, par exemple, Rue, c'est sûr que chacun va dire, ben non, le poisson était pourri juste une fois sur trois, pas tout le temps. L'autre, ma tante qui dit, hein, j'ai pas vu...
J'ai pas vu de poisson.
Oui, oui. Et vraiment, des fois, tu parles de quel arbre à mouche au... Et c'est tout. On est d'accord de ne pas être d'accord. Donc, pour mes parents, c'est une liberté totale de faire ce que je voulais déjà avec le livre.
Dans le livre.
Et donc, imaginez le film, c'est encore plus loin dans leur tête. La seule chose que mon père a dit, et je pense que c'était une blague, il dit « j'avais pas de moustache ».
Mais c'est tout.
C'est tout. J'avais pas de moustache. Et ma mère de dire, j'ai jamais pleuré comme ça. Et c'est vrai qu'elle n'a jamais pleuré. J'ai dit, mais c'est parce que c'est seulement inspiré de toi. C'est pas du tout toi, exactement. Parce que c'est le contraire. Elle a insisté à ce qu'on parle vietnamien à la maison pour préserver la langue et la culture. Mais dans le film, pour le film, et pour beaucoup de familles vietnamiennes et même des familles d'immigrants, on veut que les enfants apprennent très rapidement. Non, on parle le français à la maison, par exemple. Ouais. Mais c'est le message, en fait. Et donc, elle dit, j'ai jamais pleuré. Alors, c'est la seule chose qui l'a dérangée. Je suis bien plus tough que ça. Mais en fait, évidemment, elle n'est pas tough.
Comment ça se déroule avec la famille Villeneuve?
Bien, moi, je vais te parler de plusieurs... Parce que moi-même, sur Funky Town, on racontait quand même un peu Alain Monpetit, Douglas Léopold. Ouais.
Avec des noms trafiqués.
Non trafiqués.
Pour que légalement...
Mais on racontait une époque, tu sais. Fait que déjà, là, j'avais commencé à me poser des questions, l'impact sur les gens. Puis je me rappelle, après Funky Town, après la première... Parce que nous, Funky Town, vu que c'était inspiré, il n'y avait pas de droit à demander à qui que ce soit. Okay? On a changé les noms de tout le monde, puis on a mélangé mille histoires de l'époque disco, puis on a raconté une époque, mais basée sur plein de vrais faits vécus, et on a interviewé un paquet de gens. Mais tu sais, c'est quand même un peu tragique, Alain Monpetit, son histoire, et puis, tu sais, ils sont décédés les deux, puis dans des circonstances, fait qu'il y a ça dans le film. Bien, après le film, à la première, on est au party, il y a quelqu'un qui vient me parler, puis il me dit qu'il est le fils d'Alain Monpetit. Et que là, lui, il a vu le film. Mais il m'a dit qu'il a trouvé ça super bon, le film, en fait. Puis,
il y a une libération qui vient avec
peu,
ça.
Totalement. J'étais comme, oh my God. Mais c'est la première fois où j'ai pris conscience de l'impact sur l'entourage. Là, sur Gévineuve, c'est très documenté. Tu sais, je veux dire, on a trouvé des milliers de photos, du footage de la famille, de toutes les époques. Donc, c'est sûr que... Et j'ai un souci d'authenticité le plus possible.
C'est un poids.
Il y a un certain poids. Puis aussi, moi, tu sais, je veux dire, la famille, je veux qu'ils soient assez gros pour eux.
Eux vont se faire questionner par la suite. Ils vont se faire questionner. S'ils
aiment
le film ou pas. Ils ont à
vivre avec. Ouais. À un moment donné, même sur le film, sur le scénario avec Mélanie, elle m'est arrivée avec un point où... parce que dans la période de motoneige, c'est moins connu quand même. Mais je sais qu'avec Guillaume, on avait traficoté un peu une course avec une victoire.
Guillaume, c'est Guillaume Lenargan.
Guillaume
Lenargan,
avec qui on a co-écrit, ouais. On a fait la recherche ensemble. Puis, tu sais, c'est des années là, de lire tous les livres puis faire les interviews. Bien, à un moment donné, tu sais, pour que ça soit court, puis que ça soit compréhensible, puis que les enjeux soient forts, on faisait gagner une certaine course en motoneige avec son prototype, puis c'était pas cette course-là qu'il avait gagné, c'était un autre, tu sais. Puis à un moment donné, avec Mélanie, elle me dit exactement ce que tu me dis. Elle me dit, tu sais, moi, il va falloir que je vive avec ça toute ma vie après, genre, le monde va venir me voir pour me dire, hey, ça, c'était pas vrai. Puis j'ai fait, ah, Colin, je pense que oui, t'as raison, tu sais, il faut faire attention pour pas que j'accroche trop, je veux respecter ça. Je l'ai changé, d'ailleurs. J'ai mis la bonne course avec le bon, puis j'ai arrangé le scénario pour que ça marche quand même. Je veux considérer l'existence de ces gens-là autour du projet. Je mets une importance là-dessus. Est-ce que ça va affecter la façon que je vais l'écrire? Pas tant. Parce que je pense que moi, quand j'ai trouvé mon sujet, puis je sais qu'il est universel, puis c'est de ça qu'on va parler, puis après ça, mon objectif, c'est de toucher les gens dans la salle avec ça, mais en même temps, le plus fidèlement possible. On utilise un véhicule, tu sais, quand même. Quand on prend une vedette internationale comme ça, c'est sûr que ça ouvre des portes. Tu sais, ça pique une curiosité chez les gens. Tu sais, y a un succès, les films attirent beaucoup d'attention, les films biopics. je pense, parce que c'est une personne qu'on connaît, mais on veut en savoir plus. C'est pas juste...
Comment cette personne-là a fait son parcours?
Parce que nous, ce qu'on a aperçu de cette célébrité-là, on l'a vu à la télé, on a vu des courses, on a vu gagner ou un chanteur, on a écouté sa musique. Mais à un moment donné, il y a un film sur ce chanteur que j'adore.
Qu'est-ce qui s'était passé dans les coulisses?
Oui, c'est ça qui nous intéresse. On veut pas juste revivre ce qu'on avait vécu, on veut aller voir les détails de behind the scenes. Et là, ça, il faut livrer quelque chose qui va peut-être déplaire à ce moment-là. C'est ça l'affaire qui va
peut-être
déplaire.
Est-ce que vous pensez que c'est la raison pour laquelle les biopics sont autant populaires? Ils sont populaires au Québec, ils sont populaires aussi ailleurs à Hollywood, mais pensez-vous que c'est ça qui fait qu'on a envie d'aller voir
quand
des films?
Quand on prend une marche, là, pendant la COVID, on en a pris des marches.
Oui.
On aimait tout ça, regarder à travers les fenêtres. On aimait ça, hein?
Oui.
Juste voir, ils sont en train d'écouter telle émission, tel canal et non pas un autre. Puis, la voisine, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, donc, dans leur garage? Je me souviens, là, on passait, puis finalement, moi, je leur parle, par exemple.
Non, mais
j'ai envie de savoir, je dis, qu'est-ce que vous êtes en train de construire, donc?
Oui. C'est la curiosité d'en apprendre, comme tu dis, c'est la curiosité d'épier un peu une
humains,
personne.
Oui, puis là, ça, ce sont mes voisins, mais si c'est quelqu'un qui est connu, on se dit, mais comment, quel genre de brosse à dents qu'elle utilise, même là?
Oui.
C'est juste cette curiosité humaine, un peu normale pour se connaître.
Oui.
Et là, quand tu fais un film sur quelqu'un, c'est ça, c'est lever le voile un peu sur...
Et voir est-ce qu'on a des points en commun dans quoi on se reconnaît.
Oui.
Puis ça, c'est rassurant. Il y a un esprit de comparaison.
Mais je pense que oui.
Pour se rassurer.
C'est rassurant parce que là, on se dit, cette personne-là qui a accompli des choses qui m'ont touché dans ma vie. Puis là,
ils ont eu peur aussi.
Ils ont eu peur, ils ont eu des difficultés. C'est quoi les obstacles?
Oui.
Et donc,
puis
ça, c'est rassurant.
Puis les sacrifices aussi. Puis j'ai un ami qui est allé voir, je ne sais plus quel film, puis il dit, j'aimerais ça avoir une chicane de couple de ce genre-là. C'est tellement là, épique et profonde et explosive. Tu sais, j'ai jamais réussi parce que ma femme, même chicane pas. Alors, lui, il rêve à une dispute de ce genre-là. Mais c'est ça, c'est tout simplement, je crois, cette curiosité.
Et se rassurer et s'inspirer
aussi.
S'inspirer parce que, moi, je suis beaucoup là-dessus. Moi, je pense que le cinéma que j'ai fait, c'est aussi beaucoup pour, je pense, raconter un certain espoir, de dire en général, j'aime ça, moi, j'aime, tu sais, j'aime...
Le côté humain de la personne.
C'est-à-dire, j'aime montrer des obstacles très difficiles à franchir, mais l'espoir que, on est capable d'arriver à certains résultats. Puis en observant le comportement de certaines personnes qui y sont arrivées, je pense qu'il y a... c'est pas une question de message en tant que tel, mais d'être capable de le voir à répétition et de s'identifier. Je pense que ça rend ça réel dans notre esprit pour le public, de se dire, moi aussi, c'est un peu ça qu'on fait. On se dit, moi aussi, si je vis ce genre d'adversité. Tu sais, les films extrêmement douloureux où on va dans des trucs traumatisants, extrêmement dark, finalement, c'est qu'on se pose la question, comment on peut s'en sortir si ça se rend si loin? C'est ça qu'on se pose comme question. On veut le voir. Puis,
c'est d'apprendre. J'ai écouté le film Abbé Pierre. Okay? C'est un film, je ne connaissais pas du tout l'Abbé Pierre. Donc, j'ai appris à l'écran son histoire. Et vraiment, je l'ai vu au bon moment, probablement, parce que j'avais plein de questionnements. Pourquoi on fait tout ça? Vers où on s'en va? Qu'est-ce qu'on peut changer? La nature humaine étant ce qu'elle est. Et par je ne sais pas quel miracle, le film m'a donné la réponse. Parce que lui, il se pose cette question-là à la fin de sa vie. Mais j'ai échoué, je n'ai pas réussi à changer la nature de l'homme, de l'humain en général. On continue à être égoïste, à être vil, à être méchant, bon, tout ça. Donc, il dit, il a dédié toute sa vie à ça pour finalement arriver exactement à la même place. Et son frère fantôme lui répond, il dit, t'as raison, t'as tout échoué, mais il y a une chose que t'as réussi. T'as réussi à continuer à nous aimer malgré nos faiblesses, malgré nos vulnérabilités, malgré nos défauts. C'est ça que t'as réussi, de continuer à nous aimer. Et c'est ça un film. Oui, est-ce que l'abbé Pierre, il a vraiment dit ça? Je sais pas, mais...
Toi, ça t'a parlé.
Oui, nous a donné ce message-là. Peut-être que tout ce qu'il a fait, le réalisateur, il a interprété le combat constant et il n'a pas lâché jusqu'à la fin comme étant l'amour qu'il a continué. Et c'est ça que j'ai appris.
Puis, mais tu sais, il y en a plein de biopics qui nous ont touchés quand on était jeunes. Moi, je sais pas, moi, JFK, j'ai adoré ce film. Les films d'Oliver Stone, à l'époque, il en faisait beaucoup des biopics, Born on the 4th of July, tout ça. C'est une porte d'entrée pour...
Apprendre.
Mais
puis je sais pas, c'est vrai.
Sur un sujet, sur un dilemme humain, sur la condition humaine, mais vu que c'est à travers soit une histoire vraie ou une célébrité, ça nous ouvre une porte d'intérêt. Où est-ce que là, ben, on entre plus facilement, parfois,
ben
je
pense. Tu sais, il n'y a pas de fantôme, là, on s'entend, là. Ben, je pense.
Mais c'est une vraie personne. Non, mais dans le sens où c'est vraiment... C'est une vraie personne, oui, c'est pas de la fabulation.
Non, donc, c'est ça. On va aller demander, justement, comment ça se traduit, pourquoi c'est aussi populaire au box-office. On va aller parler avec Christian Larouche, qui est distributeur de films pour les films Opal et producteur aussi pour Crystal Film, qui travaille avec toi, entre autres, sur le film Villeneuve. Bonjour, Christian Larouche.
Bonjour, ça va bien?
Oui, Christian, je me demandais pourquoi les films biopiques comme, par exemple, il y a Maurice Richard, il y a eu un film sur Alice Robbie, Ma vie en cinémascope, Louis Cyr, il y a eu un film sur Céline, Nelly Arcan, Le commandant Piché. Pourquoi ça pogne, ces films-là? Parce que ça, c'est quand même des films qui ont ramassé des grands box-office.
Bien, je pense que le public aime ça se revoir leurs idoles, en fait, ou leurs... ce qu'ils ont vécu durant leur jeunesse. Et puis, je pense que c'est ça qui fait un attrait et que pour nous, facilement, je veux dire, les gens, on aime ça, on le voit, là, avec tous les biopics qui ont été nommés. On a tous fonctionné. C'est très rare que les biopics ne fonctionnent pas. Même si un film comme Dalida a été moyen, mais il a quand même fonctionné... pas à la hauteur qu'il voulait, mais le film a quand même fonctionné.
Et là, tu travailles présentement sur trois projets. Il y a Villeneuve avec Daniel Robbie. Il y a Guy Lafleur qui est en pré-production. Et il y a Diane Dufresne aussi, La vie de Diane Dufresne. Comment t'approches les familles de ces personnalités-là? Parce que dans le cas de Guy Lafleur et Gilles Villeneuve, ils sont décédés. Mais dans le cas de Diane Dufresne, elle est encore vivante. Donc, j'imagine que l'approche doit être différente.
L'approche est complètement différente. Mais il faut dire que quand... bon, Guy Lafleur, il était vivant quand on a commencé à l'approcher. Et puis, d'ailleurs, j'ai terminé avec lui. J'ai signé le contrat avec lui. Alors, c'est plus facile. À quelque part, c'est plus facile et aussi plus compliqué. Parce que si on prend le cas de Guy Lafleur, il y a... Bon, Guy, lui, pour lui, il n'y avait pas de problème de montrer, de parler de ce que lui a vécu. Il dit, moi, je n'ai pas de cacheterie, je n'ai aucun problème, je vais y aller comme vous voulez. Je vais dire tout ce que c'est qui m'est arrivé. Partons dans un cas comme Diane Dufresne ou dans un cas comme Villeneuve. Là, c'est deux cas différents. Okay. Diane Dufresne, elle est vivante. Elle essaie de garder quand même une certaine image que je peux comprendre. Il y a des choses qu'on ne pourra pas aller où on veut bien aller. On va devoir se restreindre à certains endroits. C'était la même chose avec Jerry Boulet. Mais quand je suis arrivé avec Jerry Boulet, que je parlais avec Françoise, la veuve de Jerry, j'ai dit, écoutez, on ne peut pas mettre Jerry plus blanc, bonnet blanc qu'il est. Il faut absolument montrer quand même qu'il y avait des côtés un peu plus sombres, son alcool, il la trompait et tout ça. Alors ça, il a fallu qu'elle accepte ça. Quand on a fait tout ici, on n'avait pas ce problème-là, moi puis Daniel.
Et dirais-tu que ça coûte plus cher faire des biopics? Parce que souvent, il faut qu'on se rapporte à une certaine époque.
Définitivement, ça coûte plus cher. Présentement, je travaille aussi sur les Stachny. Bon, ben il y a le père, il y a les Stachny. En fait, il y a beaucoup de monde qui rentre pour nous, qui vient s'intégrer dans notre histoire. Alors, il faut qu'à chaque fois qu'on négocie les différentes ententes avec des personnes différentes. Je travaille sur un autre dossier, le présentement, qui est un autre biopic que je ne peux pas nommer parce que je suis en pleine négociation. Mais il y a plusieurs familles qui sont impliqués dans le dossier et plusieurs personnages qui ne sont pas liés à la famille, mais qui font partie d'un groupe. Alors, quand on est rendu à négocier, il faut que tu négocies tout en même temps. Parce que malheureusement, si on négocie après, ben c'est impossible. Parce que pour nous, faire un film, un biopic, on peut le faire avec le public domaine et puis on n'aura pas de problème en tant que producteur. Mais là, je mets mon chapeau de distributeur. Quand j'arrive en distribution, si je n'ai pas réglé tous ces problèmes-là en amont, ben je vais avoir un problème en distribution et c'est là que le bas blesse, en fait.
Oui, là, tu es en train de me dire que tu vas faire un film sur Beau Dommage.
Non, pas du tout. Mais
c'est une blague.
Mais tu n'es pas loin. quand même.
OK, c'est bon, ben je brûle. Ben, on a bien hâte de savoir ça. Merci beaucoup, Christian Larouche, pour tes lumières de producteur et de distributeur.
Plaisir, merci, à très bientôt.
Merci. On parlait avec Christian de demander la permission aux familles, aux gens, à ceux qui restent. Ici, on fait ça au Québec. Ça fonctionne comme ça partout ou pas?
Bien, moi, je l'ai un petit peu étudié au niveau légal parce qu'au moment de faire suspect numéro un, j'ai lu beaucoup parce que là, ça impliquait la police et tout ça. Tu sais, on est habitué de voir le cinéma américain. On est plongé là-dedans. Le cinéma américain est protégé par ce qu'il appelle le First Amendment, la liberté d'expression. Au niveau de l'art, tu as le droit de dire ce que tu veux. Et puis, tu ne peux pas être poursuivi, en fait, en cours.
À moins que ce soit une diffamation.
À moins que ce soit... Mais même pas de la même façon qu'au Canada. C'est-à-dire qu'au Canada, mais aux États-Unis... tu peux faire un film, ils font le film W sur George Bush, tu vas regarder le Vice sur Dick Cheney. Je pense qu'il y a beaucoup de monde là-dedans qui pourrait dire tu fais une diffamation. Dick Cheney pourrait poursuivre la production en deux minutes pour dire ça n'a pas d'allure comment tu me dépeins dans ce film. Mm. Mais ils ne le font pas parce qu'ils vont perdre à cause du First Amendment. Donc, même avec ce que tu pourrais appeler la diffamation, au Canada, c'est la Charte des droits et libertés, tu as droit à... En tout cas, je ne suis pas un avocat, là,
ouais.
Mais tu as droit à protéger ta vie privée. Et donc, on n'est pas sous les mêmes lois. Donc, au Canada, c'est toujours, quand ça passe avec les assurances et tout ça, ça revient toujours beaucoup plus délicat de faire un biopic au Canada. C'est pas toujours obligatoire de demander des permissions, mais la probabilité de te faire poursuivre en cours est beaucoup plus élevée. Donc, c'est plus difficilement assurable, un film au Canada, quand tu fais un biopic qui n'est pas... approuvé, si on veut, ou tu n'as pas fait d'alliance avec les gens concernés. L'autre point dont Christian parlait, son point de distributeur, ça, ce qui est intéressant, je sais qu'aux États-Unis, on dirait qu'ils ne pensent pas de la même façon aussi, parce qu'aux États-Unis, there's no such thing as bad news. C'est comme une nouvelle, c'est une nouvelle, parlez-en comme en bien ou en mal, mais parlez-en, ça fait de la publicité. Au Québec, on l'a vu avec certaines... avec certains films biopics un peu, il y a l'affaire du monde, des trucs comme ça, où, à un moment donné, le film sort, et là, il y a des gens qui arrivent dans les médias, puis que là, tout à coup, se mettent à dire, c'est pas vrai, non, tout ça. Et je sais qu'il y a eu des impacts au box-office, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans le public qui se sont dit, bon, il y a du monde qui s'oppose, on n'ira pas voir le film. Et ça a un gros impact sur l'assistance en salle. Donc, il y a ça aussi au niveau de la distribution.
Dans le cas d'Aline, c'est arrivé aussi.
C'est arrivé Céline Dion. Au Québec, ça a eu un impact.
Bien, ça a eu un impact terrible sur le box-office.
Instantané.
Oui, donc, parce qu'il y avait division autour du sujet puis de la façon dont il était traité.
Donc, ça dépend des cultures. Je sais qu'aux États-Unis, tout le monde s'en fout là, de ça. Les controverses, là, il y en a tout le temps dans les médias. Tandis que je sais que les distributeurs au Québec, c'est plus sensible. Le public québécois est plus sensible à ça. Puis s'ils sentent qu'il y a une chicane autour du film, ils ont tendance à moins aller voir le film.
On n'aime pas la chicane. Voilà. Okay.
Non, on n'aime pas la chicane.
On essaye, là. On essaye d'en avoir, mais ça marche pas. Ça meurt dans l'œuf. Ou sinon, le public ne tolère pas.
Tolère moins, exactement. Oui. Donc, c'est ça qui mène à ce que les producteurs ou les distributeurs aient plus tendance à aller faire des alliances avec les gens concernés pour un peu avoir leur approbation avant de le faire, pour être sûr que personne ne se manifeste par la suite. Ça arrive plus au Québec qu'ailleurs.
C'est vraiment intéressant. Je suis vraiment contente de vous avoir reçu aujourd'hui. Kim Thuy, évidemment, le film Rue, on pourra le voir sous peu en VSD. T'as aimé ça, toi, Rue?
Oui, moi, j'adorais ça.
En cassette? Non, non. Moi, ça se fait
en cassette
encore?
VHS.
Je pense plus que ça existe en cassette.
En DVD. Tu peux demander un DVD, ça peut se faire encore.
Ah oui?
Mais moi, je dis à tout le monde, allez
pas
voir.
De lecteur.
DVD Blu-ray?
Blu-ray...
Moi, j'en reçois encore.
Ah oui?
Oui.
Mais non, bon, moi, je dirais à tout le monde de voir Rue. J'ai adoré ça, j'ai adoré ton livre aussi. Mais le film, c'était intéressant aussi de voir comment c'était transposé. Moi, j'avais tellement hâte qu'on se rencontre parce que je voulais savoir comment elle avait vécu ça. Mais c'est sûr que j'avais lu son livre. Puis pour moi, je trouvais que c'était impossible de faire un film à partir de ce livre. Donc, bravo à Charles-Olivier et à tout le monde qui ont travaillé sur le film parce qu'ils ont trouvé comment raconter une histoire à partir de tous ces tableaux et toutes ces transitions que
c'était pas
que
évident.
Jacques-David avait mis des pages sur son mur.
Il me demandait, je sais pas combien de fois, c'est quoi ta quête, Kim, t'as-tu une quête? Puis j'ai pas de quête. Je n'étais pas capable de répondre, mais oh mon Dieu. Je pense qu'il faut que j'aille chez le psy. Il m'a obsédé avec ça. Quelle est ta quête?
Et Daniel, toi, Villeneuve entre en production, donc on pourra voir le film dans un an, on le souhaite. notes.
Un peu plus.
Donc, on ne fait pas de chicane.
Le moins de chicane possible, s'il
vous plaît. Pas de chicane. Kim, t'es revoir Villeneuve par la suite. Mais on a très hâte, évidemment, de voir ce film-là. On va te suivre tout au cours de ton tournage. Et puis, on souhaite la meilleure des chances, en fait.
Merci
à vous deux.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous. Pour réécouter les épisodes, allez sur Spotify, Google Podcasts, Apple Music et sur les plateformes de Cogeco. Sortez le Popcorn est une production de Push-Up Media. À la réalisation, Fred Perron. Au mix sonore, Olivier Couture. À la recherche et à la production de contenu, Stéphanie Gagnon. À la coordination, Béatrice Langlois-Bété. Au design graphique, Simon Lagneau. À la vidéographie, Studio Campus. Aux communications numériques et promotion, Sandrine Couture. C'était votre animatrice, Catherine Beauchamp, qui vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Sortez le Popcorn.